Cette chronique sur la prochaine danse et pour les prochains dents, une présentation de Gouin et Vero, denturologiste Jonquière, Labbé et Anse Saint-Jean, trois places d'affaires, un service hors pair. Pour rendez-vous, 88 412 42 64.
Il est 9h13. On est déjà rendu à la 9e chronique en lien avec la prochaine danse. Puis aujourd'hui, j'ai deux invités. Entre autres, j'ai Marianne Lemaire, qui est intervenante pivot pour l'association Renaissance. Bonjour, Marianne.
Bonjour.
Et j'ai France Sirois, qui est directrice pour PalliAide, accompagnement en soins palliatifs. Bonjour, France.
Bonjour.
Fait qu'on va vous parler une en arrière de l'autre, en fait, là, pour expliquer un peu qu'est-ce que vous faites dans vos organismes et également les services que vous offrez. Fait qu'on va y aller avec Marianne Lemaire, donc, je répète, intervenante Association Renaissance. C'est quoi la mission? Vous desservez quelle clientèle?
Nous, en fait, on travaille auprès des personnes qui ont subi un traumatisme crânien ou un AVC, ainsi que leurs proches aidants, en fait. Fait qu'on leur offre des services, là, en fait, une panoplie de services, beaucoup de choses, entre autres pour travailler en maintien des acquis, mais également aussi favoriser l'intégration sociale, défendre les droits, aussi les accompagner dans le quotidien s'ils ont besoin, là.
Et de travailler avec les personnes qui vivent des traumatismes crâniens ou qui ont eu des AVC, ça aide aussi les proches aidants à les aider.
Hein? Tout à fait.
Un ne va pas sans l'autre.
Voilà. On va offrir des services aux personnes qui ont subi un TCC ou un AVC directement, mais on va également offrir des services aux proches aidants. C'est certain qu'en offrant un service aux personnes qui ont subi un TCC ou un AVC, bien, c'est certain qu'on les aide. On leur offre un certain répit. Parce qu'ils viennent dans nos locaux, ils viennent aussi améliorer certaines sphères de leur vie. Ça fait que ça décharge un petit peu le proche aidant. Voilà.
Donc, dans les services que vous offrez pour les proches aidants, parce qu'on est pour la proche aidance, mm-hmm. qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils vous appellent?
Votre question.
Non, bien, dans le sens que j'ai quelqu'un qui a fait un AVC.
Oui.
OK, ça vient d'arriver, là. J'ai quelqu'un qui a un traumatisme crânien, puis on sait que des fois, les traumatismes crâniens, c'est quand même pas long, mais des fois, ça peut durer toute une vie. Il y a des séquelles qui sont longues. Fait que, qu'est-ce qui va faire en sorte que je peux téléphoner chez vous pour avoir des services ou des conseils ou...
Oui, bien, en fait, c'est quand même... C'est quelque chose de gros, qu'est-ce qu'ils vivent, ces proches-là, parce que c'est tout un chamboulement dans leur vie, dans leur quotidien. Puis, tout d'un coup, après l'accident, bien, on fait face à beaucoup de changements. Il y a souvent un long processus de réadaptation qui va venir avec ça. C'est très éprouvant pour la famille, pour l'entourage qui suit cette personne-là, qui l'aide, qui va l'accompagner là-dedans. Puis, après, tout cette réadaptation-là, bien, on se retrouve un petit peu à revenir à la maison, ou tout dépendamment de chaque situation, mais des fois, on se retrouve à la maison, puis là, on a besoin. Ça fait que c'est à ce moment-là que nous, on peut intervenir pour donner un coup de main
d'entre eux. Oui. Parce qu'il faut comprendre que quand, je ne sais pas, là, on parle, ça peut être un AVC, des fois, bon, on reste paralysé d'un mm-hmm. côté, je veux dire, ça peut être un traumatisme crânien, il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire, et puis là, ben, des fois, on ne reconnaît pas son enfant, son conjoint, ou on ne sait plus comment mm-hmm. fonctionner. Il y a tout un deuil aussi, un processus par rapport à ça?
Oui, c'est un deuil. La personne n'est pas, est toujours parmi nous, mais c'est un deuil qu'on dit un deuil blanc, hein, parce qu'on doit faire le deuil de la personne qu'elle était avant cet accident-là. Puis ce qui est particulier avec le TCC ou l'AVC, c'est que les séquelles peuvent être nombreuses et c'est un petit peu un coup de dé, comme on dit, parce qu'on ne sait pas quelles vont être les séquelles après et quel niveau elles vont avoir.
Oui, parce que des fois, c'est léger, mais des fois, c'est beaucoup plus sévère.
Oui.
On va donner dans quelques instants toutes les informations en lien avec votre association, les numéros de téléphone, comment on peut vous contacter, tout ça. Là, on va aller voir France parce que vous travaillez, et Dieu sait qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, vous travaillez en soins palliatifs. Vous êtes directrice chez PalliAide.
Oui. PalliAide, c'est un service d'accompagnement pour les gens en phase palliative de cancer et toute autre maladie en fin de vie. Depuis 1987, ça fait quand même plusieurs années que l'organisme existe. Il y a plusieurs services qui ont été développés pour mieux accompagner, parce que le but initial, la mission initiale, c'était faire que les gens soient le plus longtemps possible à domicile. Parce que les accompagnements à domicile, ça demandait toute...
Logistique.
Oui, toute logistique, puis des personnes aussi qui sont prêtes à accompagner. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bien, de plus en plus, les gens restent plus longtemps à domicile. Donc, nos services sont quand même importants là, pour quelqu'un qui voudrait poursuivre et rester à la maison, tu sais, au lieu d'aller soit à l'hôpital,
ou
en maison de soins palliatifs. Puis, on travaille en continuum de services. Donc, tu sais, nos personnes, on va les suivre souvent du début, qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie à pronostic réservé. Puis, on va pouvoir les accompagner tout au long de leur cheminement, là, les personnes malades, qui partent de nos bénévoles. Puis nous, on va suivre aussi les proches aidants comme intervenants psychosociaux. On va suivre nos proches aidants. On va leur donner différents services, dont de la massothérapie, des ateliers qu'on a développés au cours des dernières années. Ils peuvent consulter aussi des ouvrages dans notre organisme. Finalement, on s'ajuste. Nous, on est beaucoup dans une mission d'accompagnement. Donc, ce qu'on souhaite le plus, c'est que les gens demandent le plus tôt possible. Souvent, ils viennent pas nous voir tout de suite, mais dès que leur conjointe ou leur famille, il y a quelqu'un qui a un pronostic réservé, là, qui n'a plus de possibilité de guérison, on peut accompagner dès le début. Puis ça, c'est important de le savoir parce qu'ils peuvent recevoir de l'aide pendant un long moment. Puis comme toutes les clientèles en proche aidance, bien, c'est des gens qui ont de la misère à se reconnaître. Ils ne voient pas tout ce qu'ils font. Puis c'est à petite dose, hein. Ça commence, je vais aller faire des petites commissions, je vais aller chez le médecin avec toi. Puis à un moment donné, oups.
Je t'accompagne pour tes traitements.
Les traitements, puis ils deviennent proche aidants presque à temps plein. Puis quand c'est un conjoint, bien, c'est à temps plein, là. Ils ont tous les métiers, là. Infirmière, on demande beaucoup quand même à des proches aidants en oui. soins palliatifs.
Puis le système de santé étant ce qu'il est en ce moment, les services sont plus difficiles, il y a moins de personnel. Des fois, c'est compliqué un petit peu, là.
Tout à fait. Fait que ça prend beaucoup de personnes. T'sais, j'ai eu la question dernièrement pour comment on fait pour rester le plus longtemps à domicile. Bien, ça prend toute une équipe, hein, puis il faut qu'elle soit présente. Puis une partie importante de cette équipe-là, bien, c'est les proches aidants. Fait que c'est pour ça que nous, depuis les dernières années, là, les services qu'on offre, bien, c'est toujours en pensant que, oui, on accompagne la personne malade, mais quand elle est bien entourée, il y a d'autres personnes qui sont là présentes puis qui sont tout aussi importantes pour la poursuite de cet accompagnement-là dans les meilleures conditions.
Est-ce que, bon, des fois, la personne est malade pendant un certain temps, il y a la période où ça va moins bien, des fois arrive un décès également. Est-ce que vous êtes là après aussi?
Tout à fait, parce que nous, on travaille avec la phase palliative. La phase palliative inclut la période de deuil. Donc, comme je disais tout à l'heure, dès que la personne a un pronostic réservé, on peut accompagner chez Palliaide autant la personne malade que le proche aidant. Puis les besoins après, en post-aidance, hein, qu'on appelle pour le deuil de nos proches aidants, on va être présents puis on va les accompagner, mais toujours selon leurs besoins. Parce que nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner. Donc, c'est selon eux qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. Mais le but visé, c'est vraiment ça, de pouvoir les accompagner tout au long du processus.
C'est intéressant parce que je me dis que des fois, il y a peut-être un patient, une personne qui est atteinte d'un cancer ou d'une maladie, bon, il va mourir incessamment, puis il décide, lui, qu'il veut mourir dans sa résidence, à domicile. Ça peut arriver aussi que le conjoint se sent pas tout à fait assez fort. Il a pas le goût de vivre ça, ou en tout cas, il n'est pas dans la possibilité à ce moment-là, émotivement. Mais d'aller vous rencontrer, d'aller jaser avec vous autres, ça peut changer de l'angle de la situation.
Tout à fait. Ça peut changer l'angle, puis de pouvoir... Parce que quand on a des personnes malades qu'on accompagne, puis admettons, un proche aidant vient nous rencontrer, puis qu'on commence un début d'accompagnement, on va donner des outils aussi. On a aussi des formations, j'en ai pas parlé encore, mais on donne des formations pour nos proches aidants. On a des groupes de soutien maintenant pour les proches aidants. Donc, tout ce volet-là, bien, va faire qu'ils se sentiront pas seuls. Puis cette année, on a commencé aussi des groupes de deuil. Si vous disiez tout à l'heure, on peut les accompagner en intervention individuelle, mais maintenant, on va les suivre aussi en groupe de deuil. Puis quand ils ont déjà commencé à faire un groupe comme proche aidant, puis là, ils se connaissent, bien, quand ils arrivent pour être avec le groupe deuil, bien, c'est une toute autre... Tu sais, sont heureux d'être ensemble, là. Ils ont de la difficulté après ça à se quitter parce qu'ils ont créé des liens, puis...
De l'attachement.
Donc, moi, je pense que d'avoir un support... Moi, j'appelle ça un filet de sécurité. quand on demande de l'aide, peu importe l'aide qu'on demande, là, peu importe les domaines, quand on sait qu'on peut avoir de l'aide, même si on a des peurs, même si on a des insécurités, bien, le fait qu'on a un numéro de téléphone ou qu'on a quelqu'un à qui se référer, ça peut faire la différence pour la suite de l'accompagnement. Donc, si je reviens à ce que vous m'avez demandé, est-ce que le fait que quelqu'un peut être insécure, bien, il y a des gens comme ça qu'on a accompagnés, puis que le fait qu'ils étaient suivis, qu'on leur donnait des outils, bien, ils se sentaient, ça leur donnait de l'estime, puis ils se sentaient plus forts. Puis moi, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup dire, vu que j'ai l'occasion aujourd'hui de le faire, c'est que comme accompagnateurs aussi, personnes malades ou gens qui reçoivent de l'aide, ne soyez pas gênés de remercier vos proches aidants. On demande souvent des nouvelles de la personne qui est malade, mais on oublie de demander des nouvelles du proche aidant. Alors, les deux sont une équipe. Toutes les personnes autour sont des équipes. Alors, je pense que c'est important de le souligner.
Je le pense aussi. On va revenir, avant de donner les numéros de téléphone, évidemment, pour PalliAide, on va revenir à Marianne. Marianne, toi, les gens, nécessairement, quand ils vont chez vous, les proches aidants, c'est parce qu'ils sont encore en vie, ils ont toute leur vie encore à vivre avec leur, leur problématique, et les proches aidants vont les accompagner. Est-ce que vous êtes avec eux longtemps? Est-ce que vous les accompagnez pendant longtemps?
On peut. On peut être là pendant plusieurs années. C'est vrai, qu'est-ce que vous dites, dans le fond, là, c'est de la proche aidance à long terme. Hein? C'est pas seulement pour une courte période, pour accompagner le temps d'une maladie, ou même une maladie, ça peut être à long terme aussi, mais dans notre cas, c'est vraiment à long terme. Des fois, le traumatisme crânien, ça n'a pas d'âge. Hein? Des fois, un accident, ça arrive à des jeunes enfants ou à des jeunes adultes. Alors, voilà, ça va nécessiter des besoins pendant plusieurs années. Mais nous, dans le fond, là, c'est qu'on va accueillir le nouveau proche aidant. Le plus important, c'est de bien prendre considération de sa réalité. C'est nous, ce qu'on veut pendant le processus d'accueil, c'est vraiment de prendre le temps de rencontrer le proche, de bien comprendre sa situation, parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment lui offrir les services adaptés à sa situation, à ses réels besoins. Ça fait qu'on va prendre vraiment le temps avec lui. Puis après ça, on va pouvoir lui offrir du soutien psychosocial individuel, que ce soit téléphonique, que ce soit en personne. Ça, c'est toutes des choses qui sont possibles. On a également des groupes de soutien de notre côté. On tente de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Donc, par exemple, pendant les groupes de soutien, il y a la possibilité d'amener la personne aidée en répit. Si ce n'est pas possible parce que, bon, c'est trop demandant, on ne peut pas laisser seule à la maison, et on peut l'amener à l'association. Nous, on va faire notre groupe pendant que quelqu'un prend soin de la personne. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on tente de faire pour rendre les services les plus accessibles possibles. Puis comme France l'a dit aussi, c'est vrai qu'ils ne se reconnaissent pas. Puis nous, quand arrive l'accident, quand arrive tout ça, ils mettent tellement d'énergie, de temps pour aider leur personne, pour la remonter au maximum qu'on peut. Bien,
il y a de l'amour là-dedans.
Oui, tout à fait. Puis ils en oublient que justement c'est à long terme. Donc ils voient pas que ça va être qu'est-ce que ça peut être. Puis nous, ben on peut les aider à voir ça. On peut les aider et les accompagner là-dedans aussi. Là,
c'est magnifique.
Dans tout ce cheminement-là, parce que c'est un gros cheminement.
On travaille beaucoup avec les besoins.
Oui,
je pense. Quand
on s'adapte énormément aussi à leurs besoins. Ouais. Puis on fait toutes sortes de choses. On est bien inventif, je crois.
Oui, bien, c'est magnifique ce que vous faites. Puis en même temps, c'est le fun parce que ça devient comme une spécialité. Mm-hmm. Parce que parfois, quand on se promène dans le réseau de la santé, puis ils ne font pas par exprès, mais c'est pas tout le monde qui a les formations, c'est pas tout le monde. Fait qu'on frappe un mur, des fois, dans la façon dont ils ont traité la situation. Tu sais, quand tu pars avec quelqu'un qui, je sais pas moi, un traumatisme crânien, puis que tu vas passer des tests pour les yeux, pour les lunettes, bien, si tu parles trop vite, ça marche pas. Mm-hmm. Quelqu'un qui est sourd, c'est d'autres choses. Fait qu'on a comme de la misère dans le réseau de la santé en ce moment à s'ajuster à toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est important que vous soyez là avec votre spécialité.
Oui, bien, moi, je pense qu'on est on est complémentaires,
oui,
mais en même temps... On est très créatif. Hein? Alors, oui. ça amène des choses qui, des fois, ne sont pas possibles, comme vous dites, dans le réseau. Mais
parce que les mécanismes d'accès ne sont pas les mêmes.
Tout
nous, des fois, on a quand même la possibilité puis la chance de pouvoir être un peu plus créatif, inventif, d'aller chercher d'autres façons d'intervenir différemment, tandis que parfois le réseau, qui est très bon aussi, comme tu le dis, France, c'est très complémentaire, on en a besoin également, mais parfois, ben oui, il va y avoir un petit peu plus de je sais pas comment...
On a un petit peu plus de latitude,
oui,
des fois.
Voilà, tout à
puis je pense que faut le dire, les organismes communautaires, on est créatifs,
oui.
On s'organise souvent avec peu de moyens. Alors, je pense que ça développe nos capacités d'adaptation, puis on n'a pas le choix d'aller chercher plein de solutions. Des fois, on fait des choses que, tu sais...
On pourrait pas appliquer.
On n'aurait même pas pensé possible, tu sais. Ce que tu as amené sur le répit, ça, c'est vrai. Nous aussi, on le fait, ça. T'sais. Si quelqu'un ne peut pas se déplacer, on peut payer un taxi, on peut faire qu'on va donner de l'accompagnement à la personne malade pendant que la personne va venir en groupe de deuil. Parce que nous, il y a une particularité aussi dans ce qu'on fait, c'est que le temps est une notion importante en soins palliatifs. C'est que des fois, il y a peu de temps. Puis le temps qu'ils ont, ils veulent pas toujours le passer avec la personne, ou en tout cas, c'est compliqué. Puis des fois, c'est des situations très, très critiques. Ils peuvent plus laisser. Fait que si on met pas de cadre autour pour être capable de faire sortir la personne, bien, nos beaux groupes de deux et puis nos beaux groupes de proches aidants, ils ne pourront pas venir les suivre. Là.
Fait absolument.
Des fois, au bureau,
faut y penser.
On ne pense pas toujours à ça, mais au bureau, des fois, il y a beaucoup de travail qui se fait en équipe pour dire, bien, qu'est-ce qu'on va faire pour cette famille-là? Cette année aussi, ce qu'on a remarqué, on a travaillé beaucoup avec des familles, tu sais, les gens, pour accompagner ce regroupe. Donc, on travaille avec les besoins de proches aidants de plusieurs personnes dans une famille. Puis probablement que toi aussi, Marianne.
Ah, tout à fait. Nous, les proches aidants, c'est pas juste la famille immédiate. On a de la famille élargie. Dans le fond, c'est toute personne du réseau qui s'implique, qui donne un coup de main. Bien, vous êtes un proche aidant. Vous n'êtes pas obligé d'être un frère, d'être une sœur, d'être un parent, d'être un enfant. Vous pouvez être un ami, vous pouvez être un cousin
un
très
voisin,
éloigné,
un voisin. Oui.
Voilà, tu sais, toute aide que vous allez offrir, bien, ça va faire de vous un proche aidant. Puis ça, bien, il ne faut pas, comme France l'a si bien dit tout à l'heure, il ne faut pas minimiser ça, il faut vous reconnaître parce que c'est ce que vous êtes. Puis aller chercher le soutien. T'sais, des fois, on n'a pas l'impression qu'on a besoin, mais oui.
C'est parce que ça se fait à petits pas, comme j'ai dit tout à l'heure. On commence par, tu sais, on regarde juste quand on accompagne nos parents, on commence par aller faire des petits travaux, des petites choses, mais au fil du temps, bien, parce qu'on aime, hein, on fait toujours ça par amour quand on est proche aidant, là, en tout cas, la plupart du temps, on fait ça par amour. Fait que ça se fait à petits pas, puis à un moment donné, bien, on se rend plus compte qu'on est débordé. Puis plus on parle de nos services, puis on parle des services des organismes, plus les gens vont demander de l'aide, puis vont être capables d'accompagner plus longtemps, puis d'une meilleure façon aussi, puis dans un meilleur équilibre de santé mentale aussi.
Oui, puis il y a beaucoup de proches aidants qui viennent nous voir, là. Moi, j'en ai plusieurs en tête, mais puis qui viennent sans attendre, en se disant, « Oh, j'ai pas vraiment besoin, je sais pas trop qu'est-ce que je fais ici, mais bon, je suis venue, puis je vais venir voir qu'est-ce qui se passe. » Puis finalement, juste de parler, d'exprimer, de ventiler sur sa situation, ça a déjà fait le gros du travail. Juste une ou deux petites rencontres comme ça, on discute, on voit qu'on n'est pas seul, on comprend que c'est normal qu'est-ce qu'on vit. Parce que des fois, oups, on est confronté à toutes sortes de choses, on vit des émotions, puis là, ben c'est-tu normal, tu sais, hein, c'est normal, moi, d'être comme ça, de vivre ça.
De me sentir comme ça.
Voilà.
Des fois, on sent cheap, des fois, on sent...
C'est intéressant ce que tu amènes, parce que c'est vrai que des fois, juste une rencontre.
C'est ça.
Il y a des gens, moi, que j'ai rencontrés, juste une fois, mais juste d'avoir été là, d'avoir vu que c'était correct, puis ce qu'ils vivaient, puis ce qu'ils ressentaient. Puis des fois, ils viennent nous revoir plus tard pour le deuil, tu sais. Fait que c'est peut être une intensité. Puis nous aussi, on accompagne pendant des fois plusieurs années une famille. Parce que les soins palliatifs, les gens pensent toujours que c'est la fin de vie, mais ça, il faut démystifier ça aussi. Les soins palliatifs, c'est pas seulement la fin de vie. C'est dès qu'on apprend qu'on a une maladie, qu'il n'y a plus de possibilité de guérison, on fait partie des soins palliatifs.
OK, ça, donc, je ne savais pas ça.
Donc, ça, c'est quelque chose que tout de suite, les gens disent « soins palliatifs », non, je ne suis pas en fin de vie. Nous, on a souvent des appels comme ça. Les gens se font référer par le CIUS, puis disent « ben moi, je ne suis pas en fin de vie ». Mais pas nécessaire d'être en fin de vie pour être chez nous. La fin de vie, c'est une partie, des soins palliatifs, comme le deuil, comme je vous expliquais tout à l'heure, comme le deuil en fait partie.
Il y a toute l'acceptation de la maladie. Quand on sait le qu'on ne pourra pas guérir, il faut avoir des gens à qui parler.
C'est ça. Mais si plus de gens sont au courant de ça, bien, quand on est dans une famille puis on sait que notre personne est en soins palliatifs, puis qu'elle n'est pas en fin de vie, mais qu'elle pourrait recevoir des services, parce que souvent, on a des gens qui disent, bien, voyons donc, si j'étais venue avant, ça l'aurait tellement fait la différence. Mais je pensais pas. Moi, pour moi, j'étais pas en fin de vie, mais pas nécessaire d'être en fin de vie.
Non, puis les gens ne connaissent pas aussi la panoplie d'organismes qui existent pour une panoplie de situations, puis de contexte.
Ils savent pas. Puis aussi, des fois, c'est parce qu'on veut pas voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de prévention, c'est indiqué à beaucoup d'endroits. Mais tant qu'on n'a pas de problème, on se casse pas trop la tête là-dessus. C'est quand arrivent ces moments-là, là, on sait plus où aller. Là.
Mais quand ça arrive, ce moment-là, on a un processus à faire aussi, un processus d'adaptation qui nous demande aussi de réaliser que oui, on a une maladie. Puis ça, on le comprend. Mais il y a aussi le fait que c'est pas démystifié le fait que soins palliatifs, c'est pas juste fin de vie, puis c'est pas juste la mort. Parce qu'on vit des bons moments en soins palliatifs. Là. Il y a tout un... Quand on a des gens qu'on accompagne, moi, j'ai des gens que j'ai accompagnés un an de temps, qu'on a rencontrés, on avait du plaisir ensemble. Tu sais. Il y a des pleurs, il y a des rires, il y a toutes sortes de choses. Fait que ça, il faut voir ça aussi, que c'est pas juste une tragédie. Donc, pas se gêner d'appeler. Puis si on ne peut pas donner de service, c'est correct, mais appelez. Puis on peut tout dire, donner les informations à ce moment-là.
On va donner vos numéros de téléphone de vos associations respectives. Vous faites vraiment un beau travail. Vous travaillez dans l'humain, dans le cœur, dans ce qui est essentiel, en fait. Et puis, on va demander à Marianne, qui est intervenante pivot pour l'association Renaissance, les coordonnées, si on a besoin, si quelqu'un a fait un AVC proche de nous ou un traumatisme crânien, pour se faire aider à aider.
Oui, bien, en fait, le numéro de téléphone, 418-548-9366. Mon poste à moi particulièrement, c'est le 102, mais sinon, vous pouvez quand même faire le 0, là, puis vous aurez quelqu'un qui vous répondra.
OK. Là, c'est est-ce que c'est 24 heures sur 24 ou si c'est dans le jour?
C'est surtout de 8 à 4 du lundi au vendredi, là.
OK. Bon, ça, c'est services. Important qu'on...
On offre quand même quelques services de fin de semaine, mais ça, on s'en reparlera si, okay. si vous en avez besoin.
Une prochaine chronique à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup. France, on parle de palliaide. Alors, comment on fait pour communiquer avec vous?
En fait, on peut téléphoner au 418-690-0478. On a plusieurs intervenantes. Alors, vous choisissez soit le 0 ou un poste d'une intervenante, puis il y a quelqu'un qui va vous répondre. Aussi, la semaine, les jours ouverts de 8h30 à 4h30, sauf que en laissant des messages, des fois, on prend nos messages hors horaire, parce que j'ai quand même une équipe qui sont là pour ça, puis qui, des fois, ben ils vont prendre plus un petit peu d'appels. Puis sinon, on a notre site Internet aussi. Si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur notre site Internet. Puis pour les groupes aussi de soutien, s'ils sont intéressés, bien, ils vont avoir toute l'information sur notre site.
Même chose de notre côté aussi, on a un site Internet.
Vous autres aussi?
Oui.
Association Renaissance?
Association Renaissance.
On va aller voir ça. Hey, j'ai rencontré deux belles personnes ce matin, de deux beaux organismes. J'espère que ça a aidé les gens qui sont à la maison, qui sont proches aidants. Et puis, je vous rappelle que c'était la chronique 9 et que vous allez retrouver à partir de demain la chronique sur notre site ckaj.org. Si vous en avez manqué un petit bout, dans la section balado, dans Simplement Bilodo, il est 9h36.
Cette chronique sur la proche aidance et pour les proches aidants vous a été présentée par Gouin et Vairo, denturologistes, Jonquière, Labbé et Anse-Saint-Jean. Trois places d'affaires, un service hors pair. Pour rendez-vous, 418-412-42.